l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée au sionisme et au socialisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Alors aujourd'hui tu vas nous parler du socialisme dans le sionisme à travers différents personnages.
Ou du sionisme dans le socialisme.
D'accord, comme tu préfères.
Ça marche dans les deux sens. Tu as remarqué ?
Oui.
Écoute, on a parlé beaucoup lors de l'émission sur Aaron David Gordon, on a évoqué.
Absolument.
Et bien évidemment, lorsqu'on a parlé de Ben-Gourion, on a enregistré déjà une émission sur Ben-Gourion. Mais on n'a pas évoqué peut-être plus en détail les relations qu'il y a eu au départ du mouvement sioniste, de ce qu'on a appelé l'idéologie socialiste, même si c'est assez varié, c'est-à-dire que l'éventail des visions socialistes est assez important dans le mouvement sioniste. Et cela tient au fait que le mouvement sioniste est un mouvement non idéologique, beaucoup plus pluraliste, qui se fonde plus sur, je dirais, un certain nombre d'idées fondamentales qui avaient été exprimées par Herzl, et après laisser la possibilité aux différents courants de pensée d'avoir leur modèle, je dirais, de sionisme, mais aussi peut-être leur modèle de société future. Alors, bien évidemment, dans le socialisme en général, il y a aussi des tendances. Il y a eu les socialismes utopiques, socialismes qu'on a appelés scientifiques. Ensuite, après, il y a eu les tendances marxistes. Et même dans les tendances marxistes, il y a des trotskistes, des lambertistes, des marxistes-hélénistes, des maoïstes. Que sais-je encore ? Et voilà, il y a même eu des différentes interprétations plus modernes du marxisme et du socialisme. Donc, le sionisme aussi a vécu, je dirais, un débat sur ce qu'on pourrait appeler cette vision sociale, ce modèle. Alors, je crois que ce qui est particulier à toutes ces tendances, tous ces courants de pensée socialistes, c'est qu'ils ont, ils considèrent le sionisme comme un moyen de réaliser une société juive plus juste, plus égalitaire. Mmh. Voilà, ça c'est une vision du monde. Alors que les sionistes politiques, par exemple, comme Jabotinsky ou d'autres, n'ont pas spécialement de vision sociale. Ils ont plus une vision qui met en avant l'aspect politique du sionisme et laisse au fond la possibilité aux habitants du futur État de choisir leur modèle de société de façon démocratique, comme tout autre État. Mmh. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'appliquer une méthode comme la méthode marxiste au sionisme. C'est pas tout à fait comme ça que ça peut se penser, puisque dans la vision marxiste, c'est une vision globale, c'est une vision universaliste, d'une certaine façon, une vision internationaliste. Et là, on parle uniquement d'une société. Donc, quelque part, il y a déjà, dès le départ, quelque chose qui différencie, je dirais, le socialisme sioniste du socialisme marxiste ou des autres mouvements internationaux du socialisme. Mmh. L'autre aspect, c'est que, bien évidemment, il y a l'idée que la société juive ne vit pas de façon normale. C'est-à-dire que la pyramide sociale, comme on dirait aujourd'hui, du peuple juif tel qu'il vit en diaspora, est anormale.
C'est-à-dire ?
Elle n'est pas conçue comme toutes les pyramides sociales, avec une classe ouvrière, une petite bourgeoisie, une grande bourgeoisie, mais éventuellement une aristocratie, mmh, etc. Donc il n'y a pas cette même répartition sociale.
Moi, il me semble qu'il y a cette même répartition
sociale.
Encore
une fois, non, parce que les Juifs étaient écartés d'une des activités essentielles qui était le travail de la terre.
D'accord.
Et donc parce qu'ils ne pouvaient pas, dans certains cas, avoir de terre. Donc, tout le secteur, ce qu'on appelle le secteur primaire, ils en étaient, d'une certaine façon, écartés, même si on sait que dans les petites communautés, il y avait des Juifs qui cultivaient leur petit lopin de terre. Mais disons, il n'y avait pas ce secteur primaire important. Et même dans ce qu'on appelait le prolétariat, la classe ouvrière, au moment du développement, je dirais, d'une société industrielle, des grandes entreprises, eux, il y avait relativement peu d'ouvriers juifs dans les grandes entreprises. Mmh. Alors, encore une fois, ça n'a pas de rapport avec le fait qu'il y avait des juifs pauvres ou des juifs riches. Hein. Ce n'est pas tout à fait comme ça que la pyramide sociale est conçue. Donc, quelque part, c'est l'anomalie de la diaspora, de la vie des communautés juives en exil, qui fait que la pyramide sociale est différente dans le peuple juif. Et donc cette anormalité
peut être normalisée si...
doit être normalisée si demain on crée une société juive.
D'accord.
Et ça va être, je dirais, l'enjeu principal du sionisme socialiste, ça va être justement quelque part de remettre le peuple juif dans de reconstruire une société juive avec une pyramide sociale normale. Alors, tout ça est étudié, mais en gros, je dirais qu'il y a deux ou trois courants essentiels du sionisme socialiste. Hein. Il y a une tendance qui est plus ou moins proche de l'analyse marxiste de l'histoire, hein, qui est représentée par Borokhov, un petit peu plus par Sirkin, qui ensuite va s'en écarter. Il y a un socialisme qui est beaucoup plus utopique, dont on a parlé avec quelqu'un comme Gordon. Et puis, il y a ce qu'on appelle un socialisme qui est plus dans un socialisme activiste qui va s'occuper de ce qu'on pourrait appeler une construction révolutionnaire en Eretz Israël, c'est-à-dire de comment construire une société sur des fondements sociaux égalitaires, de justice sociale et de partage des biens et de distribution, je dirais, plus égalitaire ou plus juste de la richesse.
D'accord.
Alors, qui est représenté par des gens, à la fois comme Ben-Gurion, mais aussi comme Katzenelson, Tabenkin et autres.
D'accord.
Alors, comme nous avons déjà évoqué Aaron David Gordon, nous allons plus consacrer cette émission aux autres penseurs,
d'accord,
c'est-à-dire Borokhov, Sirkin, Katzenelson et Tabenkin, qui chacun ont eu un rôle un peu différent, des rôles à la fois d'idéologues, de penseurs, et d'autres, des rôles vraiment de constructeurs, de bâtisseurs de la société israélienne. Alors, évidemment, il y avait déjà, au sein du peuple juif, et ça, il faut vraiment bien le comprendre, il y avait déjà des mouvements ouvriers, et notamment un mouvement extrêmement important en Europe de l'Est, qui s'appelait le Bund. Le Bund était une organisation socialiste, mais qui n'était pas sioniste, et qui donc avait pour but d'essayer d'obtenir un certain nombre de droits pour les Juifs,
d'accord,
mais sur les lieux
en
où ils résidaient. Certains ont demandé une forme d'autonomie, d'autres ont demandé un certain nombre de droits pour la classe ouvrière juive. Le Bund, lorsque, par exemple, la révolution bolchevique a été instauré en Union soviétique, dans ce qui est devenu l'Union soviétique, le Bund était détesté par les marxistes.
Pourquoi ?
Enfin, c'était l'expression de Lénine sur les bundites, il disait « ce sont des sionistes qui ont le mal de mer ».
D'accord.
Au fond, parce qu'on disait « pourquoi ces juifs ont besoin d'une autonomie ? Pourquoi ils se séparent en tant qu'ouvriers juifs ?» Puisque c'est un mouvement international et universaliste.
Ça devrait être juste des ouvriers.
Voilà, juste, d'accord, des ouvriers. Et donc, le fait de se déclarer ouvrier juif était quelque chose qui n'était pas compréhensible dans la vision marxiste. Encore une fois, le point de départ de l'idée socialiste juive, c'est quand même l'idée d'une amélioration de la condition juive. L'idée que, finalement, on peut être juif et être un peu heureux, et un peu... vivre un peu mieux. Cette forme d'utopie, cet idéal universel, voilà, c'était l'unique condition. Mais, encore une fois, pour pouvoir être heureux, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord être libre. Et le sionisme était une façon de libérer le peuple juif de ce joug de la diaspora et de l'exil, d'être finalement dépendant d'autres nations. Et une fois qu'on est libre, on peut éventuellement construire une société juste dans laquelle les gens peuvent être éventuellement heureux. Alors que le point de départ, c'est malgré tout, avant la création de l'État d'Israël, encore une fois, c'est de créer des organisations, des mouvements qui vont promouvoir cette idée d'une société plus juste au sein de ce qu'on pourrait appeler le peuple juif, le prolétariat juif, les ouvriers juifs, ou en tout cas les petits groupes qui existaient dans toutes les communautés juives, surtout en Europe de l'Est, où il commençait à y avoir à la fois une industrialisation, mais malgré tout, une grande pauvreté. Et donc, ces organisations sionistes socialistes ont été moins actives dans les pays, je dirais, d'Europe de l'Ouest, où il y avait déjà un développement plus important, où il y avait déjà des communautés juives, comme en France ou en Allemagne, où il y avait déjà une petite bourgeoisie juive, voire même une grande bourgeoisie juive, avec quelques grandes familles juives qui avaient réussi, comme on dit dans les affaires, et qui représentaient parfois même, je dirais, la grande bourgeoisie. Ces groupes ont créé des différentes organisations sous des titres différents, comme par exemple Poel et Sion, donc les ouvriers de Sion. Ces Poel et Sion, à la fois, ont existé, ces groupes de Poel et Sion ont existé en Europe de l'Est, en Europe orientale, ont commencé à se préparer à l'Aliyah en s'organisant en communauté et parfois même sous une forme collectiviste. C'est-à-dire qu'il y a eu la création à partir des années 1908-1910, moment à peu près de la deuxième Aliyah, on a créé ce qu'on appelait des archarot, c'est-à-dire des petites fermes pour vivre à la fois en collectivité et se préparer, se former au travail de l'agriculture.
D'accord.
Et donc, on prenait...
C'est-à-dire qu'on créait des petites fermes en Europe pour se préparer à ensuite, d'accord.
Absolument.
À la vie en Israël.
Voilà, pour à la vie et dans pouvoir voilà, dans le futur État d'Israël, ou en tout cas pour, lorsqu'ils arrivaient en Palestine, pouvoir immédiatement préparer et travailler dans le cadre d'un kibboutz ou dans le cadre d'une ferme collective. Encore une fois, le kibboutz, c'est une idée qui arrive à peu près en même temps. Donc au début, on n'utilise pas tellement kibboutz, on utilise le mot de kvoutza. Mais déjà, on pense à une forme de vie sociale utopique en collectivité. Et ça commence déjà en Pologne. Alors en Pologne et en Russie, c'est extrêmement mal vu par les communautés juives qui considèrent que, notamment les autorités rabbiniques, qui condamnent évidemment cette vie en communauté, garçons et filles en plus, et qui vivent de façon totalement libérée, cette vie communautaire égalitaire est quelque chose qui est condamné par les communautés juives et les rabbins. Et avec même parfois des ordres de ce qu'on appelle de kherem, c'est-à-dire de boycott des familles qui ont des enfants dans ces petites communautés de ce qu'on appelait les Poel et Sion. Alors, évidemment, c'est à la fois une situation difficile, mais c'est mis en œuvre par toute une organisation, c'est pour aller de Sion, avec une vraie idéologie. Alors, l'idéologie de Borokhov, par exemple, si on va analyser d'abord de Borokhov, qui historiquement est peut-être un des premiers, et peut-être celui qui a analysé de la façon la plus, je ne vais pas dire la plus radicale, mais en tout cas peut-être de la façon la plus scientifique, la situation des Juifs. Il a vraiment fait une étude de sociologie avec vraiment il a fait des tableaux, comme on ferait aujourd'hui des tableaux Excel, pour montrer justement cette pyramide sociale. Et pour lui, il considérait que finalement, il y avait, l'histoire avait un sens.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que de toute façon, dans une vision marxiste, hegelienne aussi, l'histoire est en marche. Donc, il y a un certain nombre de processus historiques qu'on ne peut pas empêcher. C'est inévitable. Ça finira par arriver. Donc, par exemple, pour lui, le sionisme était un processus inévitable qui allait se réaliser de toute façon. À un moment ou un autre, l'État juif allait devenir une nécessité. Un peu difficile à comprendre parce que, évidemment, dans une situation où on est en diaspora, en exil, et dans des communautés avec ces communautés majoritairement plutôt religieuses, donc, quelque part, lui, il dit non, finalement, le sionisme est une espèce de nécessité, c'est comme un fruit mûr qui va se réaliser. La vision de Borokhov, c'est une vision assez très, très idéologiste, très idéologue de ce point de vue-là, considère que, voilà, une fois que les moyens seront mis en œuvre, l'État juif va se réaliser. Alors évidemment, il n'avait pas prévu beaucoup de choses qui se sont passées dans le peuple juif, mais quelque part, il considère que, par exemple, sur la question de Eretz Israël, il dit que ce n'est pas une question d'amour ou ce n'est pas une question de lien avec la terre d'Israël. C'est que, historiquement, en fait, c'est le meilleur pays possible pour les Juifs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien. Donc, comme il n'y a rien, c'est là où on pourra le mieux construire une société égalitaire et juste, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'antécédent. Lorsqu'on arrive dans une société où il y a déjà une certaine pyramide sociale qui existe, et il y a déjà des antécédents, si on peut dire, on est obligé de faire la révolution. Là, on n'a même pas besoin de faire la révolution, puisque le pays est tabula rasa. Il n'y a rien, donc il faudra tout construire. Bon. Cela dit, Borokhov n'a pas vécu en Palestine, donc c'était un peu utopique de son point de vue. L'autre attitude, c'est l'idée que, bien évidemment, pour d'autres, l'établissement d'un État juif était quelque chose qui était dans le mouvement de l'histoire, parce que nous avions un passé avec cette... Donc ça, c'est pas la vision de quelqu'un comme Borokhov, mais des gens comme... Katzenelson ou même Ben Gurion,
je considérais. Borokhov, il considérait que c'était un endroit idéal parce qu'il était.
Pour des raisons sociales et économiques.
D'accord, mais c'est-à-dire que pour lui, il n'y avait aucune racine historique.
Il y avait probablement des racines historiques, mais ce n'est pas pour ça.
D'accord.
Qu'on allait y retourner. On allait y retourner parce que c'était une nécessité qui correspondait à un besoin. Et ce besoin, il pouvait se réaliser, il pouvait s'être satisfait, disons, uniquement sur une terre où il n'y avait rien. Puisqu'il n'y a rien, on peut construire une société juste. Quand il y a déjà une société injuste qui existe, il faut la renverser, il faut faire la révolution, il faut la détruire d'abord pour reconstruire. Là, il n'y avait rien à détruire, puisque ça n'existait pas. Donc, d'une certaine façon, c'était le meilleur endroit. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, ce que disent les sionistes socialistes, par exemple, dans une première... une des premières conventions des Poales et Sion, il y a un des congrès socialistes, il y a Kaplansky qui était un des dirigeants, et il dit la chose suivante, il nous restait à nous, les Poales et Sion, à analyser à l'aide de la méthode marxiste les racines de la question juive et à définir un nouveau système économique spécifiquement juif. Nous avons analysé les couches économiques particulières, les divisions sociales des Juifs dans les pays où ils constituent une masse importante, et nous avons comparé les éléments de cette analyse ainsi que certains faits fondamentaux qui apparemment étaient trop évidents pour qu'on leur prêtât attention. Le résultat a été l'image d'une nation vivant dans l'isolement économique et n'ayant de racines ni dans l'agriculture ni dans l'industrie moderne et restreinte à certaines branches agonisantes de la production. Donc, conclusion, voilà ce que nous allons faire. Alors, pour revenir un petit peu sur le parcours de Borokhov. Borokhov qui était quelqu'un qui vivait bien évidemment, mais qui est mort assez jeune. Borokhov est né en 1881 et est décédé en 1917, donc relativement jeune, 36 ans. Lui était déjà activiste dans des mouvements sociodémocrates russes. Et pour lui, il s'agissait évidemment d'une révolution qui était anticapitaliste. Donc vision tout à fait marxiste de l'histoire. Et pour lui, le prolétariat juif et la classe ouvrière, c'était finalement un peu la même chose. Alors, dans les conditions de la Palestine, il y avait la possibilité de créer non pas une lutte de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat juif, puisque ça n'existait pas, mais il y avait la possibilité... à partir de ses conceptions, de créer une société. Mais encore une fois, sa vision, à lui, n'était pas une vision spirituelle du judaïsme, c'était une vision matérialiste, je dirais, mais à la limite, peut-être déterministe. Il a même, par exemple, sur la question de l'Ouganda, il a soutenu l'Ouganda. Il a dit si l'Ouganda...
Oui, forcément. S'il l'Ouganda... considère que c'est juste une terre déserte qu'il nous faut, voilà, ça
donc,
peut être n'importe
donc,
où.
Donc, au moment de l'Ouganda... Il a dit, bon, bah, si c'est Ouganda, voilà, il dit, il ne faut pas... L'idéalisme, disons, romantique du judaïsme ne l'a jamais interpellé. Alors, je crois que c'est intéressant de voir ce petit texte de Borokhov qui explique très bien sa conception d'Eretz Israël et sa conception, je dirais, de l'histoire du peuple juif, de la façon dont cette histoire du peuple juif va mener à la création d'un État. Voilà, je pense que tu vas nous lire ce petit texte.
D'accord. Alors, ce moment de l'histoire du peuple juif, dont les plus grandes masses sont concentrées aujourd'hui en Russie et en Galicie, est un moment de crise profonde. Si la rédemption ne lui vient pas maintenant, il est en danger d'annihilation, car nulle réforme juridique ne peut prévenir le verdict de la nécessité historique inéluctable. Il serait de courte vue de croire que les règlements provisoires, les territoires assignés à la résidence obligatoire, etc., ne peuvent être que des actes inspirés par le seul antisémitisme. Au contraire, aujourd'hui, tout comme au Moyen-Âge, ce sont des mobiles d'intérêt d'État qui ont fait anticiper et accentuer l'évolution de phénomènes inéluctables en soi qui devaient se produire tôt ou tard, quoique plus progressivement et sans l'intervention de dispositions juridiques. Si nous veillons à bien voir les choses dans cette perspective et à comprendre l'ordonnance interne qui régit l'existence en exil, loi que je n'ai fait que tracer schématiquement, on verra que l'exil touche à sa fin. L'ordre qui régit notre destinée nous impose d'œuvrer à l'accélération du processus d'élimination de l'exil moribond. Nous devons contribuer à sa liquidation, sans chercher à prolonger indûment ses derniers moments, en essayant constamment, par exemple, d'alléger la situation des Juifs dans les pays de leur résidence, et en nous laissant leurrer par le mirage de l'émancipation, des allègements juridiques, etc., du progrès.
Oui, donc on voit pour lui, c'est quelque chose comme un fruit mûr, la nécessité de l'histoire fera son travail. Voilà. Donc je crois qu'avant de passer à Sirkin, on va faire une petite pause.
Absolument, à tout de suite.
כשאת במיטה שלי אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אני והזה שלי לא אוהבים את אריק אריק גורם לנו להתגרץ אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי רוצה לדבר על אריק לכי תהי עם אריק תדברי על אריק אל תדברי על אריק מה הסיפור בכלל עם האריק הזה תמיד את נזכרת בו כשאת אצלי האם המשחק שלך דו-כיווני האם בחדרו של אריק להתת בשמי אל תדברי על אריק רק אמרת לי אריק רק אמרת לי אריק נהייתי עייף רוצה לדבר על אריק לכי תהי עם אריק אל תדברי על אריק לא עוד האריק הזה ימשיך יש עליו אם יש עליו חשבתי מדוע את עליי ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רע? אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק אל תדברי ראי רק אמרתי אריק נהייתי קצת מאור אריק אל תדברי על אריק ועכשיו את האמת תגידי לי באמת מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת דברי במספרים אל תעני לי אפילו אל תעני לי אפילו אל תעני לי אפילו זה לא ענייני ראי רק אמרתי אריק נהייתי קצת מאור אריק אל תדברי עליו לא עוד ועכשיו אני קאובוי In the wild, wild west And I'm gonna shoot Eric Yes, I'm gonna shoot Eric now Lead for me אל תדברי על אריק אל תדברי על אריק
Nous voici de retour sur notre émission Sionisme et Socialisme. Nous parlions de Borokhov, Michael.
Oui, Borokhov, finalement, l'idéologie de Borokhov est une idéologie positive. Il ne s'agit pas de détruire une société pour en construire une autre, mais il s'agit de construire une société, dès le départ, juste et égalitaire. Évidemment, pour lui, Eretz Israël est l'endroit idéal parce que, justement, il n'y a rien. Et ce qu'il dit dans un petit texte qui s'appelle « Notre plateforme », qui au fond explique son projet en 1906, il dit « Notre but ultime, notre programme maximum est le socialisme, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production. La seule voie pour accomplir le socialisme est la lutte de classe des Juifs dans les rangs mondiaux de la social-démocratie. Nous n'insisterons pas là-dessus. Notre but immédiat, notre programme minimum est le sionisme. La nécessité d'un territoire dans le cas des Juifs résulte de la base stratégique économique insuffisante du prolétariat juif. Donc si nous n'avons pas de terre à nous, nous n'avons pas la possibilité de développer une société. Vision très, très idéologique, mais en même temps aussi peu positive. Et donc pour lui, il s'agit non pas de réclamer des droits pour une minorité juive, mais d'établir ce droit sur la Palestine. Parce que la Palestine, ils disent, est un hôtel international, mais donc dans cet hôtel international, le chauvinisme n'a pas sa place. Voilà la vision de Borokhov, qui est une vision intéressante. Pour lui, d'ailleurs, il ne considère pas, comme d'autres sionistes, que Eretz Israël est le seul endroit où des Juifs vont vivre. Il accepte l'idée qu'il puisse avoir une diaspora également. Et pour lui, le fait qu'un État juif soit créé ne ferait qu'améliorer la condition sociale des Juifs en diaspora également. Alors, à côté de Borokhov, bien évidemment, il y a eu d'autres penseurs qui se sont détachés, je dirais, de cette analyse marxiste de l'histoire, et notamment celui qui a été peut-être un des dirigeants pendant de nombreuses années, en tout cas jusqu'en 1909 ou 10, jusqu'à 1924, à la tête de cette organisation des Poel et Sion, des ouvriers de Sion, c'est Nachman Sirkin. Nachman Sirkin a refusé, je dirais, l'analyse matérialiste de l'histoire. C'est-à-dire, pour lui, il y a d'autres forces que les forces de la matière et que l'économie pour expliquer les processus historiques. Il y a d'autres choses qui sont en jeu et bien évidemment, il a développé cette thèse dans un livre qui s'appelle « Le problème juif et l'État socialiste ». Il s'inscrit dans une tradition du premier sioniste socialiste, mais qui, lui, a écrit ces textes avant l'existence du mouvement sioniste, qui est Moshe Hess, sur lequel nous reviendrons, nous ferons une émission spéciale sur Moshe Hess, mais il s'agit uniquement d'une vision socialiste en tant qu'idéal. C'est-à-dire que le socialisme est un idéal qui est un idéal de liberté, à la fois physique, matérielle, mais aussi une liberté spirituelle. Et donc le sionisme, c'est un mouvement qui finalement s'inspire d'une idée de la justice, mais qui n'est pas forcément une idée qui appartient uniquement au prolétariat. C'est une idée universelle de la justice sociale qui est partagée à la fois par toutes les classes sociales, y compris par la bourgeoisie. Donc il n'y a pas cette, comme je dirais chez Borokhov, cette haine du bourgeois, cette haine de la bourgeoisie, cette haine du capitalisme. Il y a au contraire l'idée à la fois de créer une société plus juste et d'améliorer la situation des classes du prolétariat ou des classes de la classe ouvrière ou des pauvres. Sirkin, il s'agit pour lui de revendiquer une forme de justice qui est à la fois une justice sociale mais aussi une justice nationale d'une certaine façon. Donc pour Sirkin, l'étape du capitalisme que Borokhov avait envisagé dans une vision révolutionnaire n'existe pas non plus. Pour lui, là, il n'y a pas vraiment de lutte de classe. La lutte des classes, la lutte des nations, tout ça, ce sont deux aspects, au fond, d'une lutte pour la justice, pour une idée de la justice. Alors, Borokhov était, lui, plus sociologue. Il a été, évidemment, actif aussi dans les Chovevet Sion, les amants de Sion, avant d'entrer dans le mouvement sioniste. Bien évidemment, il s'est retrouvé face à des mouvements bourgeois, et donc il est évidemment du côté des travailleurs dans ces cas-là, mais par exemple, dans les débats à l'intérieur du mouvement sioniste, il a soutenu lui aussi l'Ouganda, le projet de l'Ouganda, puisqu'il a considéré que c'était une façon de libérer les Juifs qui souffraient de persécutions. Donc pour lui, c'était quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Et le sionisme a été pour lui quelque chose de la mise en œuvre d'un projet très pragmatique. Lorsqu'il est à la tête des Poalets de Sion, il s'agit pour lui de créer, par exemple, un certain nombre d'institutions à caractère coopératif.
D'accord.
Donc il va encourager, à travers ce mouvement des Poalets de Sion, toutes ces fermes dont j'ai parlé, mais également la création de kibboutzim, la colonisation agricole, et un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le chalutziyut, hein, c'est-à-dire le pionnierisme juif. Donc Sirkin, c'est vraiment celui qui peut-être analyse le mieux le retour des juifs dans une société égalitaire par le travail et par la création d'institutions comme les coopératives. C'est pas seulement des kibboutzim, mais c'est également la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils de coopération. Ensuite, il y aura la Histadrout, il y aura les coopératives agricoles pour mettre en commun tous les biens.
Lui viendra en Palestine, puis en Israël ?
Alors non, il ne va pas y vivre tout le temps. Il n'y verra pratiquement pas. Il est mort relativement jeune également. Il est mort en 1924 à New York. Il était plutôt un idéologue, un homme de parti. Bon, il a été un moment en Palestine, mais il n'y a pas tout le temps vécu.
D'accord.
Alors Sirkin, encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans son projet, il y a quelque chose qu'on retrouve également dans certains mouvements socialistes. C'est une vision, je dirais, un peu mystique, pour ne pas dire même messianique.
Mystique de quelle manière ?
C'est-à-dire qu'il y a cette idée fondamentale que la justice sociale, c'est au fond une forme de rédemption.
Et pour avoir une rédemption, il y a une faute.
Il y a une faute qui est l'exil, d'une certaine façon. L'exil qui a mené un certain nombre de, pas seulement de travers, mais disons de souffrances, de persécutions. Donc, quelque part, cette idée d'un messianisme social presque utopique, c'est au fond l'idée que le sionisme est profondément moral. Mmh. Il s'agit non pas seulement, tu dis, de réparer une faute, c'est pas seulement réparer une faute, c'est pas au sens d'une faute, c'est réparer une situation. C'est-à-dire une situation qui n'est pas une faute, mais qui est moralement insoutenable, moralement insupportable.
D'accord.
Les Juifs n'ont pas à souffrir. Or, en exil, ils ont souffert. Donc, cette idée de les ramener en Palestine et de les faire exister dans une société juste à travers des institutions de coopératives, une société égalitaire, tout ça fait partie de cette réparation, fait partie de ce qu'on pourrait appeler le salut, cette rédemption. Donc le côté messianique est évident dans la pensée de Sirkin. Il y a quelque chose qui va permettre aux Juifs de se libérer. Et il ne s'agit pas d'un droit au travail, il ne s'agit pas de demander uniquement le droit de travailler. Ça, c'est Brochow qui disait, voilà, nous devons retrouver nos droits de travailleurs. Mais il ne s'agit pas seulement de supprimer les anormalités, comme chez Brochow, mais il faut fonder l'idée que le peuple juif a un rôle privilégié à jouer dans l'humanité. En créant cette société modèle, il va servir de lumière aussi pour les nations. Cette idée-là, c'est une idée messianique qu'on retrouve
chez Ar-Hadaham,
chez Ar-Hadaham, qu'on a retrouvé même dans la Révolution française, l'idée d'avoir une espèce de modèle social universel. Donc le sionisme a quelque chose, a une force qui n'est pas seulement une force matérielle pour changer les conditions de production, les moyens de production, etc., mais aussi une force spirituelle. Et il dit à un moment dans un de ses textes, les champions de l'émancipation nationale au sein de toutes les nations opprimées sont généralement l'intelligentsia, les socialistes et le prolétariat. C'est seulement chez les Juifs, où tout est sans dessus-dessous, que les socialistes ont hérité de la bourgeoisie le concept d'assimilation et en ont fait leur héritage spirituel. Donc quelque part, il dit, tout ça, il faut le modifier. Et on va évidemment, il dit, les Juifs ont été un modèle, à la fois un modèle positif et négatif. C'est-à-dire que chez les Juifs, il dit, historiquement, les Juifs ont été une nation génératrice de divisions et de luttes. Ce sera maintenant la plus révolutionnaire des nations. Le peuple le plus humble et le plus opprimé deviendra le plus fier et le plus grand. Les Juifs gagneront leur stature morale par le labeur. Les douleurs de leur existence auront tramé la trame d'une vie noble. Le Juif petit, laid, servile et avili, lorsqu'il renie, devient fort, noble et socialement conscient lorsqu'il retrouve sa véritable nature. Donc voilà, au fond, que le peuple juif peut, grâce au sionisme, retrouver, je dirais, son véritable rôle. Et ce qu'il dit sur le sionisme est assez beau, d'une certaine façon. Il dit le sionisme des masses juives est à la fois social et lié à une forme d'idéal. Voilà, je voudrais aussi que tu nous lises un petit texte de Sirkin, si on le retrouve d'ailleurs. voilà, donc mais Sirkin est assez intéressant parce qu'il décrit à la fois les crises qui animent le mouvement sioniste, les discussions, les débats. Mais pour lui, il ne s'agit pas seulement de défendre la classe ouvrière ou prolétariat juif, mais l'ensemble du peuple juif. Voilà le petit texte que tu vas nous lire. Qui n'est pas si petit que ça, d'ailleurs.
Absolument. La couche sociale du peuple juif, qui devrait, par sa situation, être le porteur et le messager historique du sionisme et y chercher la réponse à ses problèmes matériels et spirituels, ne s'est pas encore éveillée à l'action sioniste. Cette couche sociale n'est autre que la masse juive, la majorité écrasante du peuple juif en Europe et aux États-Unis. Bien qu'elle ne forme pas une entité économique homogène, elle supporte sur ses épaules tout le poids des souffrances millénaires du peuple juif et recherche instinctivement les moyens de se libérer de sa condition. Ces millions de malheureux sont privés de leurs droits, errent d'un lieu à l'autre, ne possèdent même pas généralement le fruit de leur labeur et ploient sous leur destin tragique de parasite social. Cette masse qui survit, comme tout le camp du prolétariat, rejoint malgré elle la foule des chômeurs ou le dernier échelon de la qualification professionnelle. Or, ces malheureux ont, plus que quiconque, un intérêt vital à la fondation d'un pays libre, où ils pourraient vivre et s'épanouir dans un climat de liberté, répondant à leurs besoins matériels et à leurs aspirations spirituelles. Mais parce que leur mouvement est encore très jeune, et pour un tas d'autres raisons, telles que la pluralité des tendances qui se retrouvent dans ses rangs, les sionistes ne sont pas employés jusqu'à ce jour à gagner à leur cause les masses populaires et leur cercle progressiste, à ouvrir ainsi le mouvement aux idées fortes capables d'en faire une vision et une œuvre historique pour le peuple juif tout entier. Les idéologues du sionisme, suivis par tous les éléments traditionalistes du mouvement, n'aspiraient à gagner à la cause sioniste que les grands et petites bourgeoisies, partant d'une opinion erronée selon laquelle ces classes sociales, riches et disposant de moyens, sont bien plus importantes pour le sionisme. Ils se sont efforcés, surtout, de gagner le cœur de la grande bourgeoisie, de faire vibrer la fibre sociale, exaltant les vertus du peuple juif et de l'honneur national. Ils leur ont dépeint le sioniste comme un rempart contre le prolétariat, incarnant pour ces classes une source de désordre et de danger pour leurs privilèges. Ils ont même essayé d'enflammer leur imagination capitaliste en leur décrivant Eretz Israël comme une terre regorgeant de richesses naturelles jamais encore exploitées. Bref, une terre où coule le lait et le miel. Mais la grande bourgeoisie juive est restée sourde à ces belles promesses, se contentant d'y répondre par un sourire ironique. Le sionisme a eu plus de chance auprès de la petite bourgeoisie. Mais pas plus que sa sœur aînée, cette classe n'a ni la vocation historique, ni l'envergure nécessaire à l'idée de libération nationale juive. Il se peut que la petite bourgeoisie et l'intelligentsia qui l'accompagne répondent un jour, plus ou moins, à l'appel sioniste. Mais elles ne sont pas capables de développer les forces politiques dont a besoin l'œuvre de libération nationale de notre peuple.
C'est beau, ça.
Très, très beau.
Mais c'est-à-dire que, au fond, l'idée de Sirkin, c'est que ce sont surtout les masses prolétaires juives qui ressentent le besoin de ce sionisme.
Et c'est vrai.
Et parce que la moyenne bourgeoisie se sent peut-être protégée en diaspora. Et donc, c'est pour ça que ce sont ces masses prolétaires juives qui vont créer cette révolution sioniste. Et donc, pour lui, la renaissance de l'État juif va provoquer non seulement une modification du modèle, enfin de la pyramide sociale juive, mais aussi un renouveau de tous les aspects culturels de la vie du peuple, comme la langue hébraïque, qui va redevenir une langue vivante, comme également tous les autres manifestations de ce que peut être une nation, et donc des aspects spirituels et culturels également. Voilà. On va faire une petite pause.
Absolument. Merci, Michael.
Laila, מתלטף סביבך, אשרך אבייך אל גני תזכור, אי מדה אזכור, אי ודה. נפגשים מדירים, מתרגשים, מתנשקים, מתחבקים, נפתחים, ניתנים, נפגעים, נמתחים, מתרגעים.
Michael, il y a un autre personnage important du sionisme-socialisme, c'est Katz Nelson.
Oui.
Peux-tu nous en parler un petit peu ?
Ah, y a beaucoup de choses à dire. Katz Nelson, c'est quelqu'un que tout le monde appelait par son prénom, Berle.
Berle, d'accord.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits, notamment l'Institut de formation de maîtres, assez connu, une faculté d'éducation très connue qui se trouve du côté de Farsabak, qui s'appelle Bet Berle, qui a été pendant très longtemps... je dirais, le centre de pensée de tout ce qu'on pourrait appeler le parti travailliste, de la pensée socialiste de la gauche israélienne, d'une certaine façon. Berle Katznelson était un personnage extrêmement charismatique, un vrai intellectuel, qui a, je dirais, posé... c'est lui qui est peut-être le bâtisseur de l'establishment travailliste en Israël. C'est lui qui en a fondé... ou qui a été à la tête, ou qui a pris l'initiative de beaucoup d'institutions qui ont forgé, je dirais, le caractère central du parti travailliste, ou de ce qu'on peut appeler la mouvance travailliste. C'est pas seulement le parti, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. En Palestine, il est né en 1887 en Russie, et il est venu dans le cadre de la deuxième Aliyah, et est mort à Jérusalem en 1944. Je pense que c'était quelqu'un qui était l'idéologue du parti, c'était la figure centrale du parti.
Et justement, quelle était son idéologie ?
Alors lui avait une idéologie assez pratique, c'est-à-dire qu'il était à la fois quelqu'un qui avait une vision du monde socialiste, comparable à celle de Gordon ou à celle de Sirkin, mais également quelqu'un qui était extrêmement pragmatique. Et donc, il a considéré que pour créer une société égalitaire, il fallait créer les conditions d'une société égalitaire. Donc, il fallait un certain nombre d'institutions. Et donc, ces institutions, c'était d'avoir des institutions comme la Histadrout, par exemple. Donc, il a été à l'initiative, parmi les fondateurs, disons, de ce qu'on appelait la centrale syndicale ouvrière, qui était la Histadrout, mais qui n'était pas seulement un syndicat, qui était également un entrepreneur, qui donnait du travail, qui avait des entreprises, qui créait un certain nombre d'institutions qui allaient, je dirais, de l'industrie jusqu'à la création de maisons de culture, de bibliothèques, de cinéma. Il a été notamment le fondateur du journal. Il a d'ailleurs, il en a été le rédacteur en chef pendant très longtemps, le quotidien qui s'appelait Davar, qui était le quotidien, l'organe du parti travailliste qui s'appelait Davar. Il en a été le directeur de 1925 à 1944. Il a été le directeur d'une maison d'édition qui s'appelait Amoved, hein, de Le Peuple Travaille. Donc, c'est l'édition du parti, si je peux dire. C'est lui qui a créé le parti, qui s'est appelé ensuite Mifleget pour aller à Israël, c'est-à-dire le Mapai, hein, à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui Mifleget Avoda, c'est-à-dire le parti Avoda. Il a été lui-même, donc, évidemment, un pionnier pendant la deuxième Aliyah. Et donc, il a été très proche de gens comme Gordon, comme Brenner et aussi Sirkin. Il a créé ensuite un autre parti qui s'est appelé Ahdout HaAvoda, qui a été à l'origine de plusieurs kibbutzim. Donc, il a créé vraiment des courants pour créer des institutions. Et évidemment, il a créé ces partis avec des gens qui ensuite ont eu des fonctions importantes, comme Ben Gurion et Ben Tzvi. Mais c'était lui le patron, d'une certaine façon. Il était celui qui avait une vision, disons, à la fois de responsabilité politique, mais aussi de responsabilité culturelle. Alors, sa vision était très pragmatique, c'est-à-dire qu'il a changé d'avis plusieurs fois. C'est ça que ça veut dire, en général, en politique. Par exemple, sur la question du partage de la Palestine, au début, il était opposé. Après, il a considéré qu'on pouvait peut-être avoir une forme de compromis avec les Arabes. Sur le plan politique, il était à la fois socialiste, mais d'un autre côté, s'opposait à une vision radicale de séparation avec la religion. Il a toujours considéré qu'il ne fallait pas couper ce lien sur la question religieuse, sur ce lien avec le passé, ce lien avec la tradition juive. Il est resté très attaché à cette tradition, à l'histoire juive. Et notamment, c'est lui qui a été à l'origine de beaucoup de slogans. Par exemple, l'idée du Poel Haïvri, c'est-à-dire le travailleur hébreu, l'ouvrier hébraïque. C'est lui qui est le représentant peut-être d'une espèce de synthèse entre la dimension particulariste du sionisme, c'est-à-dire résoudre le problème du peuple juif et créer un État juif, et en même temps, ce qu'on pourrait appeler l'orientation peut-être plus universaliste, plus humaniste du sionisme. Donc il a cherché toujours à faire cette synthèse. Évidemment, il a écrit énormément d'articles, énormément de livres, et il a ensuite considéré que un des chantiers peut-être les plus importants, c'était l'éducation. Et donc, il a créé, tout un courant d'éducation qu'on a appelé Zerem HaOvdim, avec des écoles, justement pour former les jeunes aux valeurs de ce qu'on pourrait appeler les valeurs du travail, les valeurs de la gauche, on dirait aujourd'hui les valeurs républicaines, comme on dit en France, mais ici en Israël, c'est plutôt les valeurs travaillistes, c'est-à-dire les idées de la justice sociale, du partage des biens, d'une forme d'égalité, de coopérative. Quelqu'un d'une très grande rigueur morale, très honnête intellectuellement, avec une vie personnelle très très spéciale, puisqu'il était bigame, enfin, il vivait avec deux femmes en parallèle, et d'ailleurs il est enterré à côté de ces deux femmes, pas entre les deux d'ailleurs, et quelqu'un qui a à la fois été avec une très grande, très forte personnalité, très charismatique, mais qui est sans doute considéré comme le guide spirituel de cette génération, c'est-à-dire la génération des constructeurs de l'État d'Israël, même s'il n'en a pas vu, il n'a pas vu cet État d'Israël naître. Mais Ben-Gurion n'aurait pas existé sans Katzenelson. C'est-à-dire que c'était la référence du parti. C'était l'homme qui pensait, qui en même temps, arrivait à faire la synthèse entre tous ces différents courants. Et c'est ça, ça a été la force, je dirais, du sionisme socialiste, qui a été malgré tout au pouvoir en Israël jusqu'en 1977, qui a été, je dirais, à l'origine de la création de l'État d'Israël et qui l'a dirigé. Mmh. Je dirais, c'est lui qui a réussi toujours à faire cette synthèse entre ces différents courants dont on a parlé, qui étaient parfois très opposés, parce que entre Gordon, Borokhov, Sirkin et d'autres, il y avait vraiment de très grandes oppositions, à la fois sur les questions sociales et économiques, mais aussi sur la question arabe, aussi sur les relations avec la diaspora, sur d'autres questions culturelles, sur l'éducation. Lui était, je veux dire, l'homme de synthèse, celui qui, comme on disait dans les partis socialistes, celui qui a créé la motion à la fin du Congrès. D'accord. Et donc, il a eu cette capacité à être, voilà, c'est un personnage, en plus, bel homme, avec une belle moustache, avec une crinière, enfin, c'est, le personnage est assez je dirais, vraiment...
Charismatique.
Oui, pas seulement charismatique, très symbolique de ce mélange entre le pionnier et l'intellectuel. Tu vois, c'est quelque chose qui est à la fois un homme de terrain, un homme politique, mais aussi un penseur, un poète, féru de littérature, une culture phénoménale, et qui crée une maison d'édition dans laquelle on a traduit tous les grands textes de la littérature mondiale. C'est-à-dire que Amoved, c'était le livre de poche. Hein, c'était bien avant le livre de poche. C'était des livres qui étaient vendus à tout le monde à des prix modiques et qui étaient presque, qui étaient, dont le but était de propager cette culture partout. La création de toutes ces maisons, de toutes ces bibliothèques, de tous ces cinémas, qui étaient finalement, l'idée, c'était de développer la culture, de créer une véritable culture populaire. Donc ça, c'est Katzenelson, et d'ailleurs tu vas nous lire un petit texte où il explique ce qu'est finalement le régime politique à donner au pays.
Je m'explique. Le sionisme est le mouvement de libération et d'indépendance du peuple d'Israël. Ce mouvement ne se signale pas par aucune soif de domination sur autrui. Mais il se rebelle de toutes ses forces contre la soumission à autrui. L'aspiration à en imposer lui est étrangère, mais il ne peut se résigner à ce qu'on lui en impose. Ainsi, la vision de l'État juif, comme le concevait Herzl, ne comportait aucun point de répréhension à cet égard, pas la moindre allusion à cette domination sur un autre peuple. Herzl n'a d'ailleurs jamais essayé de fixer la nature du régime à établir dans l'État juif, et s'il fallait qu'il soit un État indépendant ou une province autonome au sein d'une entité politique plus vaste, le grand sionisme de Herzl, celui qui inspire le pionnier lorsqu'il vient au pays, signifie en fait ceci, la sortie de l'exil. Non pas un musée pour la nation, mais un asile sûr pour les masses du peuple. Un asile qui intégrera ceux qui viendront en ses frontières libérés de persécutions, d'interdits, de pogroms, de diffamations, d'humiliations. Non pas une tribu élue parmi les tribus dispersées d'Israël, mais le rassemblement des exilés. Le mouvement ouvrier maintient sa foi dans cet idéal, même pendant la grisaille journalière, pendant les journées d'épreuve, alors que notre image se déprécie, et même alors que l'heure n'est pas propice à l'usage du terme « d'État », que Herzl lui-même cessa d'utiliser au moment où il échangea son programme abstrait pour une action politique concrète.
Voilà, c'est un peu une langue un peu empoulée, mais en tout cas, soutenue, beaucoup en tout cas. Enthousiaste. Mmh. C'est la façon d'écrire de Katzenelson, personnage tout à fait, je dirais presque personnage mythique hein, dans le paysage sioniste en général. Alors, plus à droite, je dirais, il y avait bien évidemment des questions qui se posaient aux sionistes socialistes, et notamment la question arabe, sur lesquelles il y avait différentes questions qui se posaient, différents problèmes qui se posaient, notamment la légitimité de la présence juive. Et ça a été la question qui ne s'est pas posée aux autres mouvements, puisque aussi bien les sionistes religieux que les sionistes politiques ne se sont pas préoccupés de cette question. Ils ont considéré pour les sionistes politiques, que c'était un conflit dans lequel nous devions simplement avoir le dessus. Et pour les sionistes religieux, nous étions les héritiers du peuple juif qui revenait sur la terre de ses ancêtres. Dans une vision socialiste, c'est plus compliqué à expliquer sa présence juive. Et donc, il fallait justifier cette présence par, d'abord, la présence juive majoritaire. Et donc, tout le travail qui a été fait par les sionistes socialistes, c'était que nous aurons un État lorsque nous serons majoritaires sur cette terre. Mmh. Donc il fallait de l'immigration, développer l'économie pour pouvoir mettre en œuvre les conditions qui allaient créer cet État juif. Et ça allait, finalement, c'était une évolution à la fois historique, sociale et politique, et évidemment économique. La question a été posée à certains dirigeants du mouvement sioniste socialiste, et il y a eu un courant qui s'est développé, qui peut-être était, disons, sur la droite, peut-être, de ce mouvement socialiste, qui a considéré que la partition territoriale était dangereuse et que donc il fallait absolument mettre l'accent sur la légitimité. Et la légitimité, c'était que le peuple juif ne soit pas là pour dominer, mais qu'il soit présent majoritairement et donc qu'il réalise son projet au profit de tous les habitants. Mmh. Alors, ce que dit un des penseurs de cette tendance, qui est beaucoup plus militante d'une certaine façon, c'est Yitzhak Tabenkin. Mmh. Yitzhak Tabenkin disait « La nation est un ensemble d'hommes pour lesquels le pays, la culture et la croyance ont été créés en commun et qui en ont été influencés d'eux-mêmes. Un peuple est lié soit par le physique, l'attachement au peuple et l'apparence de l'homme, soit par le spirituel qui n'est pas détaché du matériel. Ainsi, secrets sont transmises par les générations, toute la matière physique, toutes les valeurs spirituelles, sous forme de particularités communes. Ainsi, au long des milliers d'années, se forme un caractère décennal, ce qu'on appelle le caractère d'un peuple. » Et donc, pour Tabenkin, qui était le penseur, de cette tendance, ce leader travailliste, qui, à la fois, était lui-même membre d'un kibboutz, mais qui considérait qu'il fallait se battre, que cette terre n'allait pas nous être offerte sur un plateau d'argent, et qu'il fallait, d'une certaine façon, se préparer aussi à affronter des ennemis, parce que cette légitimité, elle n'était pas seulement sociale, elle devait être aussi militaire et politique. Alors, il a été, Tabenkin, un des fondateurs de ce qu'on appelait le Palmar, c'est-à-dire l'unité de combat de la Haganah, qui était à la fois formé aux valeurs pionnières, mais aussi aux valeurs militaires. Son engagement, d'ailleurs, c'était une forme de nationalisme aussi, mais qui ne rejetait à la fois la partition de la Palestine, d'un côté, mais aussi parce que si partager la Palestine, c'était ne pas lui donner la possibilité de se développer en tant qu'État. Mmh. Et pas seulement pour des raisons politiques par rapport aux Arabes, c'était parce que à partir du moment où on coupait cette terre, on la partageait en un gâteau impossible à gérer, on ne donnerait pas la possibilité de devenir une société qui pouvait réussir, d'une certaine façon. Alors, évidemment, curieusement, à la fin de sa vie, c'est-à-dire au moment de la guerre des Six Jours, il est devenu un des partisans d'un mouvement qui s'est appelé le mouvement d'Eretz Israël.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF, et je vous dis à très bientôt, Leitraot.